Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Beaucoup de visages connus, de vieux amis, beaucoup de visages inconnus. Que se passe-t-il aujourd'hui? Un week-end d'introduction à la pleine présence, la retraite permanente et les danses Vajra. Qui fait partie du week-end, qui est là pour le week-end d'introduction à la pleine présence? Vous êtes nombreux. Pour les danses Vajra, quelques-uns aussi, bien. Et la retraite permanente. Oh. Bien, deux. Bon, c'est bien. Tout ce qui se passe ici, en Avalon, et d'une façon ou d'une autre, la retraite permanente. Ceux qui sont là pour les danses Vajra sont des anciens, somme toute. Et celles et ceux qui sont venus pour une introduction à la pleine présence, une présentation de la pleine présence. Qu'est-ce qui fait cette présentation? Didier Djoubla Mojoub, Didier. Comment cela se passe-t-il? Très bien. Très très bien. On a. C'est sur le week-end. Et qu'avez-vous fait aujourd'hui en termes de présentation?
Le souffle, l'assise, la vision, l'audition, et un cercle d'échange de parole.
Très bien. Le souffle, l'assise, la vision. L'audition, l'assise et le souffle. Et puis la vision et l'audition. Je reviens de Bruxelles, Strasbourg, où il y avait à Bruxelles une session du Mind and Life avec le Dalai Lama, et à Strasbourg, une série d'enseignements, de conférences publiques, de rencontres avec l'université, toujours autour de Kundun, le Dalai Lama. C'est très utile, très important. Et inspirant pour tous les pratiquants. Et Kundun, le Dalai Lama, parle d'abord et surtout en tant que moine, citoyen du monde, prix Nobel de la paix, et le message qu'il transmet et qu'il inspire au fil de ses différents échanges. Dans le cadre du Mind and Life, c'est avec des scientifiques à Strasbourg. C'était une adresse à tous. Ce qu'il enseigne, transmet, promeut, et ce que l'on peut nommer un humanisme intégral, ce que nous avons nommé un humanisme intégral, et qu'il présente comme l'éducation, la transmission, la pratique des valeurs humaines universelles. Les valeurs humaines universelles. Valeurs humaines universelles qui sont aussi des valeurs naturelles. Ce qui est naturel est universel. Et ne dépend pas d'une religion, de croyances, d'une culture, d'une matrice sociolinguistique particulière. Universel, naturel, naturel, universel. Et ces valeurs humaines, universelles, ces valeurs humanistes, fondamentales, universelles, naturelles, sont la bonté, la bienveillance altruiste. La bienveillance altruiste. Ce que l'on peut aussi dire, l'amour et la compassion. Une une bienveillance, une bonté eu égard aux autres, à tous les autres. L'autre en soi, les autres, tous les autres, tous les autres sans exception, tous les autres sans une exception, et aussi l'autre, l'altérité de notre environnement. Dans un sentiment, dans une expression de une un engagement de responsabilité globale, de responsabilité universelle. Les autres, l'autre, l'autre est un autre moi-même. Je suis comme toi, tu es comme moi. Nous ne sommes fondamentalement pas différents en ce que toi comme moi aspirons au bien-être, au bonheur, souhaitons et aspirons au bonheur. C'est notre motivation commune. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord. Nous aspirons au bonheur. Et pour autant que nous soyons, que nous existions, nous aspirons à notre bonheur, ce qui est légitime, ce qui est normal, ce qui est sain. L'année dernière, nous avons longuement discuté une parole célèbre d'un grand maître, Shantideva, qui dit « Tous les bonheurs, on commence par les malheurs, tous les malheurs du monde viennent du désir de bonheur égoïste. Alors que tous les bonheurs du monde viennent du désir de bonheur altruiste. » Il y a une formule qui est très importante. Désir de bonheur égoïste égale, finalement, souffrance. Une contradiction. Désir de bonheur altruiste, conséquence, bonheur, bien-être. Donc, dans cette logique, tout légitime qu'il soit d'aspirer au bonheur, on comprend que c'est dans l'accomplissement de ce qui est bon pour les autres, du souhait de bonheur, du désir de bonheur altruiste, que l'on accomplit ce qui est bon pour soi. C'est en faisant ce qui est bon pour autrui que l'on accomplit ce qui est bon pour soi. C'est l'attitude de compassion, d'amour, qui est gagnante, gagnante, win-win, bonne pour l'autre, bonne pour soi. Donc c'est cette attitude dans laquelle on perçoit aussi l'égalité de soi et de l'autre, que se situe notre pratique et, en la circonstance, notre pratique de la pleine présence. En quoi et comment la pleine présence est-elle connectée, est-elle reliée à l'amour et la compassion? L'est-elle? Voyez-vous une relation, voyez-vous une connexion? Tenzin.
Je dirais que l'état de pleine présence amène un état de non-violence et d'acceptation dans l'instant présent de ce qui est. Et dans la non-violence, on trouve finalement l'amour et également un état d'union avec l'autre et de ce qui est. Et je pense qu'en pleine présence, on peut vraiment compatir de la bonne manière, c'est-à-dire une compassion non mentale, une compassion qui vient du cœur, qui jaillit également de l'instant présent. Donc ça sera selon moi le lien qui pourrait être fait entre l'amour, la compassion et la pleine présence.
Très bien. Et dans une relation entre la pleine présence et la non-violence, est-ce et comment sentez-vous la pleine présence comme étant non-violente? Si tant est que vous soyez interrogé sur la question, mais c'est l'occasion.
Bonsoir. Anxel. Ou Johan. Pleine présence et non-violence. Déjà, la pleine présence, c'est la possibilité de toucher à la vacuité. À la non-dualité, à la disparition, je dirais, des pulsions égotiques, des désirs égotiques, et donc une ouverture sur l'esprit, sur notre monde, sur notre environnement, et donc la notion de violence n'est plus du tout d'actualité dans cet état.
Qu'est-ce qui ferait une reformulation synthétique de ça? Dans la pleine présence ouverte, ouverte, tout ouverte. Plus il y a d'ouverture, moins il y a de séparation. Plus il y a d'ouverture, moins il y a de séparation entre ici et là, entre toi et moi. Plus il y a d'ouverture, moins il y a de séparation duelle. Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que ça vous... Est-ce que je parle tibétain, là? Vous parliez, pour ne pas dire chinois. C'est là un point très important dans l'introduction à la pleine présence, c'est-à-dire à la présence ouverte. Et il y a dans l'ouverture et la présence ouverte, une qualité de on pourrait dire de communion ou de participation quand on est dans la simple expérience, la simple sensation ouverte. Et que l'on s'oublie même dans celle-ci, dans cette... Il ne s'agit pas de rester comme une sorte de témoin ou d'observateur de l'ouverture, mais lorsque l'on se laisse aller dans l'ouvert, l'on vit ou se vit d'une façon toute simple et naturelle, une forme de communion, de participation à l'instant présent, à ce qui est ici, dans l'instant. C'est tout? Dans cette communion, participation, il y a une qualité d'empathie, empathie, participation, sont des synonymes. L'empathie se définissant comme la capacité à participer, à comprendre et participer à la réalité de l'autre dans ses sentiments, son expérience, ses difficultés ou quoi que ce soit, d'être avec. Et l'empathie est à la base aussi de l'amour et de la compassion profonde au sens d'une bienveillance altruiste en laquelle il y a aussi une motivation positive dirigée vers le bien, le bonheur de l'autre. Donc, la pleine présence et la compassion sont étroitement liées et sont même finalement, ultimement, absolument une même expérience. Donc je voulais juste, comme contribution à l'introduction du jour, amener cette dimension. Et pleine présence et compassion. Empathie et compassion nous amène à une responsabilité personnelle et collective, universelle. Nous sommes responsables de ce que nous faisons, nous sommes responsables de ce que nous vivons, nous sommes responsables de ce que nous faisons qui est ce que nous expérimenterons dans l'avenir. Il y a une relation causale entre le passé, le présent et l'avenir. Et cette relation causale entre le passé, le présent et l'avenir est ce que ça a différents noms, mais dans l'instant présent, nous sommes libres. Ou dans l'instant présent, il y a une liberté. Nous ne sommes jamais complètement libre, absolument libre, mais nous ne sommes jamais non plus complètement ou absolument conditionnés. Il y a toujours, dans l'instant présent, une part de liberté. Et nous sommes, dans l'instant présent, d'autant plus libres que nous vivons le présent pleinement, que le présent se vit pleinement. Ou dire encore autrement, que nous sommes véritablement dans l'instant présent. L'instant présent est l'instant de liberté. à chaque instant. Et c'est là que se situe le fond de notre responsabilité, de notre libre arbitre, de notre liberté. Vive la liberté. La liberté de l'instant présent, qui n'est pas la liberté des conditionnements de l'ego, du moi, du soi. Ce sont les 5 dernières minutes. Et je vois que...
C'est un sujet délicat. Dans l'instant présent, il y a une part de liberté, une part de conditionnement. C'est ce que j'ai entendu. Si on est libre, on est libre. Si on n'est pas libre, on n'est pas libre. C'est...
Jusque-là, on est d'accord.
Mais le mélange d'une part de liberté avec une part de conditionnement, c'est libre ou c'est pas libre ? Pour moi, il y a un truc qui... C'est compliqué à comprendre.
Ça signifie que l'on a, dans l'instant présent, eu égard à n'importe quelle situation, des tendances. On peut appeler ça des tendances, on peut appeler ça des pulsions, on peut appeler ça des inclinations, on peut appeler ça... Ça a plein de noms. Mais on a aussi une liberté, une certaine liberté de ne pas suivre une tendance, ou une inclination, ou une pulsion, ou une... Donc, c'est... C'est quelque chose de très classique et c'est un vieux débat. Au tribunal, vous plaidez éventuellement les circonstances atténuantes pour quelqu'un qui n'avait pas son libre arbitre ou qui n'était pas, pour quelles qu'en soient les raisons, dans un état de perturbation intense, et donc il a commis quelque chose qui a fait du mal, qui a nui, mais bon, sa responsabilité se discute du fait de son manque de discernement ou de sa maladie mentale, de son aliénation. Donc, on a toujours une certaine liberté. Alors, cette liberté pourrait se doser, ou plutôt s'évaluer dans une gradation de 0 à 100.
Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que la liberté dont vous parlez, c'est pas une liberté liée, pour le coup, à son ego, mais c'est, il y a un espace de liberté, est-ce qu'on pourrait pas plutôt le dire comme ça, il y a un espace de liberté dans une, quelque chose qui est non-duel, mais dans une dualité, donc l'expression d'un ego, c'est la liberté d'un ego dont on parle, là.
C'est pas la liberté d'un ego. C'est la liberté de l'ego. Donc, attention.
Un espace de liberté, donc.
C'est pas la liberté de l'ego qui va faire tout ce qu'il veut. C'est d'être libre de soi, d'être libre de la saisie de l'ego, d'être libre des pulsions de l'ego. Et on peut avoir terriblement envie de manger une tablette de chocolat, mais on a une certaine liberté. J'ai déjà donné, je sais que c'est pas bon, ça fait rétrécir les vêtements, ça, ou je sais pas quoi. Non. Donc, mais il y a plus ou moins de liberté. Quelqu'un qui est un héroïnomane ou une héroïwoman, addicted à l'héroïne, c'est très très difficile de résister à une dose quand on est vraiment accro. C'est pire que le chocolat encore. Donc, il y a des tendances, il y a des propensions, il y a des. Mais. Et pour toute chose, plus ou moins. Et ce qui est important, c'est d'être conscient de cette réalité et de savoir utiliser la part de liberté que nous avons pour aller autant que faire se peut dans la direction de la santé, qui est aussi celle, petit à petit, de plus en plus de liberté. Si elle est bien utilisée, si elle est mal utilisée, une liberté mal utilisée, j'ai la liberté de prendre une dose de mauvais truc, n'importe quelle drogue ou n'importe quel mauvais truc, et d'en prendre encore une autre, et jusqu'à, oups, complètement mort, détruit, ou et dans une destruction aussi bien personnelle que qui détruit aussi l'autre. Donc, la liberté bien utilisée va vers le bonheur en liberté, la liberté mal utilisée va vers le malheur aliénation. On m'avait demandé ce soir de vous présenter ce qu'on en appelle certaines fois le karma. Donc c'est ce que j'ai fait et c'était délibéré sans en employer le nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ?